RCN 90.7 FM présente. Ce n'est que de l'amour. Animé par Daniel Conrad.
Supportrice, supporter de RCN, Radio Caraïbes Nancy et de l'émission Ce n'est que de l'amour, bonsoir. Vous êtes en direct du grand stade du club de votre cœur, c'est-à-dire l'émission qui se prend au mot. Et ce soir, en tant qu'entraîneur, avec ma Dream Team, mixte je précise, je vous promets qu'il va y avoir du sport. Dans l'Euro central, celle qui milite avec la force d'une sportive de la bonne vieille époque soviétique, c'est dire, et on aime, et dont l'endurance et la passion dans le combat LGBT, lesbienne, gay, bi, trans, n'a d'égal que son intelligence et sa beauté, c'est notre lesbienne des mille et une nuits, c'est Donia Bentrad. Bonjour Donia.
Bah dis donc, bonsoir.
C'est pour le côté soviétique que ça te plaît pas trop. L'arrière offensif de l'émission, c'est celui qui court souvent au parc de la Pépinière à Nancy, dans un petit short bleu à rendreguer n'importe quel joueur de foot professionnel. Néanmoins, c'est un romantique qui préférera toujours le marathon des sentiments à tous les 100 mètres sous les 10 secondes des imbéciles. C'est Julien Gély. Comment ça va, Julien ?
Ça va très bien, Daniel. Bonsoir à tous.
Et puis, notre nouvelle recrue du mercato d'hiver, achetée à prix d'or au FC RCN Propergol, c'est un artiste du dribble musical, un virtuose de l'aile de pigeon de la chanson, un génie de la passe décisive de la production et du but direct dans la lucarne de la présentation. Il est hétéro comme tous les footballeurs professionnels. Non, je déconne, lui est vraiment hétéro. C'est Sylvain Asselot. Salut Sylvain.
Salut.
Et l'arbitre de la rencontre qui, dès qu'il souffle dans son petit sifflet, jeu de mots, rameute toutes les starlettes les plus pulpeuses et sexy d'Hollywood, c'est celui qui abuse du champagne, même rose, c'est vous dire, et des gros cigares, tout vêtu d'un maillot moulant de la Squadra Azzurra, c'est le réalisateur qui rend fou ses dames, et moi, Lucas Shindamo. Salut Lulu.
Salut Daniel. Oh, la description, super.
Et si on voyait les photos sur ton Facebook, ça serait encore mieux. Lulu, j'ai reçu une question d'une certaine Pénélope Cruz, alors je connais pas cette personne, qui te demande sur l'adresse email de l'émission, sur laquelle toutes et tous d'ailleurs qui nous écoutez, vous pouvez nous écrire et n'hésitez surtout pas. Je redonne l'adresse amour.rcn@gmail.com. Elle te demande, cette Pénélope Cruz, de répondre franchement à cette question. Qui est pour toi le meilleur joueur de football du monde ? Merci. Ah là.
Bonne question, il y en a plein, mais Lionel Messi, je pense.
Voilà. Et qui est pour toi le plus beau footballeur du monde ?
Ronaldo.
Il l'a dit, il a un footballeur plus beau que les autres. Et tu as des posters dans ta chambre ?
Tout à fait.
Voilà. On salue au passage notre ami Thibaut Désé qui est à l'étranger, c'est-à-dire à Paris. On lui fait des grosses bises, il sera là le mois prochain dans l'émission. Et nous allons donc faire une émission spéciale sport, homosexualité et homophobie dans le sport. C'est un problème, effectivement, il existe un problème aujourd'hui dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire surtout de certains, une minorité de supporters, de joueurs, d'entraîneurs, de présidents et de responsables des sports. Être une femme qui joue à un sport, c'est des hommasses, et un homosexuel dans un sport même professionnel serait une folle ou un efféminé. Alors, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. Nous aurons Pascal Brett, le président du Paris Foot Gay. Nous aurons Christelle Foucault, la présidente de la Fédération Sportive Gay et Lesbienne. Nous aurons Teddy Francizo, qui est un jeune athlète de Nantes. Et tout de suite, nous allons écouter une interview que j'ai enregistrée il y a quelques jours de la plus grande championne et joueuse de foot français, Marinette Pichon. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir celle qui est certainement la plus grande joueuse de football français, et française évidemment, 112 sélections en équipe de France, 81 buts, elle a joué dans les plus grands clubs français et aussi dans deux clubs américains. C'est celle qui, comme je l'ai expérimenté cette semaine, est connue de tout le monde, puisqu'à chaque fois que j'ai dit que je recevais Marinette Pichon, on m'a dit, eh bien je connais, c'est la joueuse de foot. Et quand je demandais un deuxième nom, il n'y avait pas de deuxième nom. Marinette, bonjour.
Bonjour.
Écoute, je suis vraiment très honoré. Je pense que les auditrices et auditeurs sont très honorés aussi de t'avoir au téléphone parce que vraiment, tu as une carrière absolument incroyable. Tu es celle qui a représenté la France, comme je l'ai dit, 112 fois, même si c'est pas tellement médiatisé, on en reparlera dans quelques instants. Tu as une carrière formidable, je le répète encore une fois. Alors, première question, justement, quelle est ta plus grande joie et ton plus grand regret sur cette carrière ?
Ma plus grande joie aura été d'entendre la Marseillaise au mois de mars 94 contre la Belgique, parce que quand on a la chance de pouvoir porter le maillot tricolore et d'écouter retentir la Marseillaise, ben, ça dresse un peu les poils sur les bras, un peu partout sur le corps. Évidemment, il y a eu mon premier but. Alors, c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs, si je vais par là. Mais et ensuite, ma plus grande déception aura certainement été de ne pas gagner un titre en collectif ou une médaille avec l'équipe de France.
Avec l'équipe de France, oui, parce qu'il y a eu... j'allais dire, vous êtes toujours sorti au premier tour, c'est ça ?
Si. Ben oui, juste lors du dernier championnat d'Europe où les filles ont réussi à aller en quart, ont été sorties en quart lors de pénalty, mais voilà.
Eh oui, c'est la dure loi du sport aussi, et justement c'est une émission spéciale sport. Alors comment expliques-tu quand même que à chaque fois qu'on dit Marinette Pichon, tout le monde se rappelle de toi ? Et tu représentes l'équipe de France féminine ?
Ben, je sais pas, déjà ça me touche beaucoup, parce que ça veut dire que ben, les gens ne m'ont pas oublié et ont vécu ces belles années à mes côtés. Et après, je pense que le plan médiatique est en train de se développer sur l'équipe, enfin autour de l'équipe de France féminine, avec les résultats et notamment la qualif lors de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Allemagne l'été prochain. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir. Maintenant, l'expliquer, c'est difficile. Je pense que ben, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis et de réussir.
Tu as été la première, d'ailleurs, joueuse à partir aux États-Unis.
Voilà, de réussir là-bas et puis ben tirer un peu tout le monde vers le haut. Et c'est vrai, quand on est la pionnière et qu'on réussit tout derrière, ben c'est vrai que ça donne une certaine mise en lumière assez importante. Et c'est vrai que j'ai vraiment vécu de cette façon-là quand je suis revenue en France. Encore à l'heure actuelle, les gens viennent me voir en me disant mais c'est super, t'as fait une super carrière. Et ça me touche. Maintenant, l'expliquer, je sais pas.
Ben, tu as donné l'explication. C'est que tu l'as mérité, et sur le terrain, et certainement aussi dans la vie.
Bon, oui, je pense que bon, voilà, je suis d'un naturel assez simple. De toute manière, si j'ai eu la malchance de me prendre un peu la grosse tête au début, ma mère a su me remettre les points sur les i et sur le droit chemin. Donc ça m'a énormément aidé. Et puis après, j'ai ce relationnel et cette facilité à converser qui fait que bah, ça me rend peut-être sympathique, et je l'espère. En tout cas, c'est ce que je souhaite laisser passer, parce que de toute manière, voilà, la vie c'est tellement difficile qu'on n'a pas besoin de se rajouter des éléments contextuels qui font que on se compliquera à l'existence. Moi je suis nature, j'ai eu la chance d'être élevée dans un contexte simple, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je remercie tous les gens qui ont cru en moi, parce que ça m'a permis de faire cette superbe carrière.
Eh bien écoute, je crois que tu les as fait rêver et que tu continueras à les faire rêver certainement dans d'autres actions aussi. Alors pour en revenir au thème central de cette émission, le football c'est une de tes passions, c'est une des miennes aussi. Alors j'aimerais te poser une première vraie question sur la thématique de ce soir. Comment le football, ce sport que l'on aime, peut-il être le vecteur de tant de discrimination, c'est-à-dire le sexisme, puisque une des images du foot féminin c'est que ce sont des hommes, qu'il n'y a pas d'homosexuels dans le football professionnel parce que ça serait des folles ou des efféminés, mais le racisme, le sexisme et l'homophobie. Alors que c'est un sport absolument formidable.
Je crois que les personnes qui ne sont pas forcément très intelligentes gravitent aussi dans ces sports que l'on pratique tous. Après, il y a beaucoup d'a priori qui sont véhiculés, qui ne sont pas forcément vérifiés et du coup laisse place à beaucoup de propos qui peuvent blesser les différentes personnes qui ont choisi, je dirais pas ont choisi d'être homosexuel, on choisit pas d'être homosexuel, on choisit un choix de vie, on tombe amoureuse d'une personne, okay. Et ben si elle est du même sexe, malheureusement c'est comme ça. Après on va pas déambuler dans les rues pour faire adhérer les gens à la cause. Maintenant c'est vrai que il y a des propos des propos et des comportements qu'on ne devrait pas voir autour de terrain et sur un terrain.
Parce que tu disais au début de ta réponse des imbéciles, mais ce ne sont pas forcément que des supporters, il y a aussi des joueurs, il y a aussi des présidents de clubs, des entraîneurs internationaux, des responsables.
Je ne me contentais pas et je ne m'arrêtais pas simplement aux supporters. Ça englobe pour moi un regroupement de personnes assez large, que ce soit, ça peut aller du cadre jusqu'aux supporters. Quand on est réfractaire à une telle idée, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne veut pas s'ouvrir, parce que voilà. Après, c'est vrai que c'est difficile de faire changer les mentalités. Après, être la cause et subir les conséquences de certains actes, bien souvent malveillants, c'est, enfin, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, on n'emmerde pas le monde, on fait notre vie, on n'étale pas la vue de tout le monde. Il y a une certaine pudeur, donc il faut nous laisser faire notre vie, arrêter de croire qu'on est contagieux. Enfin voilà, quoi.
Voilà le mythe de la douche, surtout pour certains.
Ça, c'est des belles conneries, tout ça.
Marinette, tu as témoigné dans ce remarquable documentaire de Michel Royer pour Canal+, Sport et homosexualité, c'est quoi le problème ? Alors d'ailleurs, pourquoi as-tu accepté de participer à ce documentaire qui, je le dis, est remarquable en tout point ? Est-ce que c'était pour lancer un message ou simplement pour dire ce que tu viens de dire ? Arrêtez de nous emmerder, je le dis clairement, vivons notre vie, ce qui se passe dans nos chambres à coucher et dans nos cœurs ne vous regarde pas.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai simplement adhéré, enfin, à la proposition de Michel Royer, simplement pour lui dire que, enfin voilà, moi je vis, j'ai toujours vécu mon choix de vie, mon homosexualité de la meilleure façon, tout simplement parce que ce qui comptait à mes yeux, c'était que ma mère et mes parents puissent l'accepter et le tolérer. Après, les gens que je côtoie sur le chemin de la vie font que je les garde auprès de moi ou je les dégage. Si ils ont des comportements, des réactions ou un manque d'adaptation, ils ne feront pas partie de mes amis ou de mon cercle. Donc à partir de là, j'avais simplement envie de témoigner et de dire que une vie, c'est pas une tare. Malheureusement, c'est un choix de vie. C'est loin d'être une tare. C'est plus maladie mentale depuis les années 80.
Et ça ne l'était pas avant non plus, il faut quand
même.
Voilà.
Si, c'est parce qu'on était quand même déclaré jusqu'en 80 maladie mentale.
Au niveau de l'OMS.
Voilà. Donc aujourd'hui, faut passer. Il y a eu des études et quelqu'un qui est homosexuel aujourd'hui est certainement très bien structuré. Je ne vais pas dire que j'en suis la preuve, mais bon, moi, je me suis construite dans cette homosexualité-là et je n'ai pas de problème aujourd'hui. Nous avons, avec ma compagne, un enfant qui va avoir sa majorité de 18 ans. Voilà, ça fait 5 ans que je suis avec ma femme, 5 ans que nous vivons dans une vie de famille normale et pour qui nous donnons des bases complètement structurées à notre enfant, donc voilà.
Et de l'amour, surtout.
Mais de l'amour, il est, enfin, je l'espère, hein, il est pareil chez les hétéros que chez les homos.
Eh bien oui.
Voilà, sauf que une fois encore, on n'est pas dans le moule, dans la moulure de cette planète. Quand on sort un peu de la ligne de conduite ou quand on est un peu hors du commun, ça intrigue. Et les homosexuels intriguent parce que y a plein de choix, on s'interroge, on se dit mais comment ils vivent, comment ils font ça, comment ils peuvent réagir face à ça. On réagit comme tout le monde.
Comme tout le monde, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et d'ailleurs, je remarque au passage, puisque j'ai relu pas mal d'interviews de toi sur Internet, que effectivement tu n'as pas ta langue dans ta poche et c'est ça aussi qui fait ton charme.
J'ai pas ma langue. En effet, je l'ai pas dans ma poche. Mais simplement, j'estime que j'irai pas donner des leçons à qui que ce soit dans la vie. Donc j'estime que les gens n'ont pas à venir me donner de leçons. Donc je m'exprime simplement pour partager et je suis prête à converser s'il le faut. Mais à un moment donné, j'ai pas de leçons à recevoir et je ne donne pas de leçons. Je partage un avis avec des personnes qui ont envie de l'entendre ou pas.
Exactement. Alors pour terminer, est-ce que tu as un message d'espoir pour les adolescentes et adolescents qui veulent pratiquer un sport, qui se savent ou commencent à se découvrir homo et qui ont peur de la réaction ? Faut-il alors faire un coming out ? Faut-il tenter quand même expérience sportive ? Que faut-il faire ?
Tout dépend de l'âge, hein, parce que un coming out quand on est jeune, si on est dans un vase clos, ça peut être douloureux et difficile à digérer. Maintenant, si les jeunes sont bien dans leur pompe, entourés de leur famille et qu'il y a déjà eu des conversations avec leurs parents, pourquoi pas. Après, c'est un ressenti. On peut pas dire faites-le, faites un coming out, ne le faites pas. C'est vraiment propre à chaque personne, quoi. Il faut se sentir bien dans ses pompes, bien dans sa tête, bien avec les gens qui nous aiment et qu'on aime. Et à partir de là, ben, ça va se faire naturellement.
Et vouloir faire du sport, parce que c'est important.
Et puis voilà. Et puis, il faut faire du sport. C'est ce qui prime avant tout. Et c'est vrai que l'équilibre mental et physique, ben, c'est deux choses qui vont ensemble. Moi, j'aimais le sport. Et quand ma mère a appris que j'avais des attirances pour les filles, ben, elle est tombée sur le derrière aussi. Et puis, ben, elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Ben, je lui dis, t'as rien loupé. Au contraire, t'as rien loupé. Ce qui est important, c'est que je sois heureuse et je suis heureuse. Enfin, voilà.
Et voilà.
Aujourd'hui, ben voilà, quoi. Je suis heureuse, épanouie, et je souhaite à toutes les personnes de penser et de se dire et de se convaincre que ce n'est pas une tare et que elles ont tout autant le droit d'avoir autant de bonheur que ces couples hétéros.
Voilà, et l'amour est toujours l'amour. Alors merci Marinette, il va falloir qu'on se quitte. Je te remercie vraiment et je pense au nom de toute l'équipe de Ce n'est que de l'amour et de toutes les auditrices et auditeurs, et je te souhaite beaucoup beaucoup de bonheur dans ta vie professionnelle, dans le sport aussi que tu continues certainement à faire, et puis je te souhaite beaucoup d'amour.
Merci Daniel, à vous aussi, enfin à toi aussi.
Oui, et je le répète, merci Marinette, c'est vraiment une interview très très forte que je réécoute plusieurs jours après. Alors Sylvain, tu rejoins notre équipe.
Oui.
Tu es un supporter de foot.
Oui, exact.
Alors de quelles équipes, de quel championnat?
ASNL, championnat de France.
Voilà. Alors quand tu
très écoutes... chauvin, hein, le...
Oui, j'imagine.
Le plus près possible, voilà.
Et quand tu écoutes ce témoignage, parce qu'on en discutait hors antenne,
oui.
Tu ne savais pas, au niveau des sportives, et notamment lesbiennes, puisque tu es hétéro, je le répète, oui. Ce genre de témoignage, qu'est-ce que ça t'évoque?
Eh bien, déjà, je découvre le foot féminin, je suis désolé, je ne connaissais pas
Marine. Comme tous les supporters mâles.
Alors, mes premières questions avaient été, est-ce qu'il y a du pognon dans le foot féminin? Et là, une jeune fille m'a répondu, ben, tu vois, par exemple, moi j'ai joué en Ligue 2, eh bien, il n'y avait pas d'argent. Et elle m'expliquait que seul Lyon commençait, c'est ça, hein, à être semi-professionnel. Voilà, donc bon, je me suis dit qu'on est encore loin d'une égalité. Mais bon, alors après, est-ce parce que je ne sais pas, peut-être une. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre.
Eh ben, peut-être. C'est peut-être parce que c'est lié, c'est un sport magnifique, mais qui, à cette heure-ci, véhicule quand même trois fléaux, enfin, trois principaux fléaux, le sexisme, le racisme et l'homophobie. Et nous allons d'ailleurs avoir au téléphone un de mes amis qui est président du Paris Foot Gay, c'est Pascal Brett. Pascal, tu m'entends ?
Oui, très bien, bonsoir.
Comment vas-tu ?
Ben, très bien.
Donc Pascal, je suis avec Julien Gély, avec qui on va faire une espèce de ping-pong.
Bonsoir,
de questions.
Pascal.
Et donc c'est Julien qui te pose la première question.
Alors Pascal, pour nos auditrices et auditeurs, peux-tu nous expliquer ce qu'est le Paris Foot Gay ?
Alors Paris Foot Gay est créé en 2003, c'est une association de lutte contre l'homophobie dans le football. Et en parallèle à cette association, on a une équipe de football qui n'est pas une équipe de foot communautariste, qui est une équipe de foot lambda, et où il y a à peu près 70% d'hétérosexuels chez nous, où le critère de sélection c'est le niveau de football. Et voilà, et c'est un peu l'image d'Épinal, à savoir une équipe de foot où il y a des Arabes, des Noirs, des Juifs, tout ce qu'on veut, et des homosexuels qui sont visibles pour la première fois. Et donc notre association militante travaille sur plusieurs axes avec des partenaires comme la Ligue de football professionnel, prochainement la FFF, le ministère, le six clubs professionnels, dont le PSG qui a été pour nous très important pour le développement de nos deux actions. Maintenant on a Montpellier qui est en train de faire des choses et en train de véhiculer une bonne image. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui sont en place et qui pour l'année 2011 vont être encore plus fortes.
Oui, Pascal, en dehors bon, du club et des équipes du Paris Foot Gay, dont l'équipe première est entraînée par notre ami Brahim Naïd Balk, qui est le présentateur aussi de l'émission Homo Micro à Fréquence Paris Pluriel. D'ailleurs, on salue Brahim et toute l'équipe d'Homo Micro, qui est notre émission mère, on va dire. Le Paris Foot Gay a aussi, depuis quelques mois, j'allais dire une bonne année et demie, une véritable visibilité médiatique, notamment avec plusieurs affaires, l'affaire du Créteil Bébé, donc un club qui avait refusé parce qu'ils étaient musulmans de jouer contre des gays, alors que effectivement l'équipe n'est pas complète, enfin mélange des gays et des hétéros. Cette visibilité vous a donné encore plus envie de vous battre au niveau national?
Ah bah oui, clairement, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Je veux dire, si le ministère s'est impliqué autant sur l'affaire de Yoann Lemaire que nous avons dénoncé à multiples reprises, et Dieu sait que ça a été difficile d'arriver à faire bouger les lignes, c'est bien parce qu'il y a eu une visibilité médiatique et que justement on est sorti du tabou. Il y a eu le film Michel Royer, il y a eu plein de choses, il y a eu l'affaire Nicolin, enfin on peut en citer comme ça plein, mais c'est vrai que ça a été coup sur coup. Et en fait, la difficulté pour nous au départ, c'était on rencontrait des journalistes qui nous disaient, mais attendez, on comprend pas pourquoi vous êtes créé, il n'y a pas de problème. Alors effectivement, ils ont raison quelque part, il n'y a pas de problème dans le foot parce qu'il n'y a pas de visibilité, parce que les homos se cachent et on n'en parle pas de ce problème. Donc voilà, nous on s'est créé pour ça, on est passé une première étape qui est justement de dire et de faire montrer par notre visibilité en s'appelant Paris Foot Gay qu'il y a un vrai souci par rapport à ce nom-là, que ça véhicule toujours ce mot Paris Foot Gay, le mot gay véhicule toujours des choses incroyables pour la plupart des gens.
Alors que ça rappelle plus le PSG, comme je suis plutôt du côté OM.
Oui, ça c'est encore autre chose. C'est vrai que Paris maintenant peut véhiculer aussi des soucis. Mais bon, non. En l'occurrence, ce qui est problématique pour un monsieur comme Marvin, enfin un joueur de foot comme de Sochaux, pour ne citer lui.
Marvin Martin.
Marvin Martin, qui avait déclaré dans une interview qu'il ne voulait pas jouer. Le seul club dans lequel il ne voudrait pas jouer, c'était au Paris Foot Gay.
Et ne pas porter un maillot rose.
Oui, on s'y cloue. Mais il s'est excusé après, donc tac, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est toujours l'idée reçue du stéréotype. Avec gay, ça veut forcément dire sous-homme, ça veut forcément dire le cliché de la douche, que forcément un homo ça va sauter sur tout ce qui bouge, enfin voilà, on est...
On en parlait avec Marinette Pichon juste avant.
Moi ce qui m'agace dans tout ça, encore une fois dernièrement, et c'est pas des moindres, Step Blatter qui dit les homos donc à se retenir pendant la Coupe du Monde, on est encore...
Au Qatar,
oui. On est encore une fois... Enfin, on confond l'homosexualité avec la sexualité. Et on n'est pas des êtres sexuels, voilà. On est des êtres normaux. On ne saute pas sur tout ce qui bouge encore une fois. Et bon, nous, on fait sauter toutes les barrières et tous les clichés parce que pour beaucoup de supporters, un joueur de foot ne peut pas être gay. Alors, ils ont compris depuis quelques temps. Là, je pense aux supporters parisiens, notamment. On a fait 3 levées de rideau au Parc des Princes. Et que la première fois, c'était marquant puisque le premier match qu'on a fait, le premier levée de rideau, c'était contre les anciens du PSG. Donc, sur les forums de supporters, on avait pu lire avant, ils vont s'en prendre une bonne, les Tarlouses, et manque de bol, on a gagné. Donc, quelque part, c'est aussi important d'avoir une équipe compétitive qui prouve que, un homosexuel...
Qu'on sait jouer au foot aussi.
Bah oui.
Va pas moi.
Il y a le cas de Gareth Thomas en rugby. C'était un des joueurs les plus physiques du rugby.
Complètement.
Il faut faire tomber les clichés. Ça va être très long. On en est conscient. On se rend compte que vraiment, par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on vit toujours, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Ouais, mais si on ne pose pas les premières pierres, personne ne le fera à notre place.
Mais elles sont posées, les premières pierres. Dans le foot, en tout cas, vraiment, on a pas mal avancé. Je suis assez confiant.
Pascal, une dernière question, parce que c'est vrai qu'on a, un planning très chargé pour cette émission. Donc le Paris Foot Gay initie la charte contre l'homophobie qui a été reprise par Ramayad, et on en parlera tout à l'heure avec Christelle Foucault, la présidente de la Fédération Sportive Gay et Lesbienne. À cette heure-ci, cette charte contre l'homophobie que le Paris Foot Gay a initiée, qui l'a signée et qui va la signer? Parce que j'ai cru entendre que tu nous balançais que la Fédération Française de Football enfin allait la signer.
Oui, c'est absolument officiel. J'ai un courrier comme quoi. Bon, ça fait un petit moment que c'est dans les tuyaux, mais c'est depuis le 17 mai, même. Il m'avait dit qu'ils allaient la signer, mais là, c'est vraiment officiel, puisque j'ai un courrier qui dit qu'ils vont la signer. On va faire même plus que la signer, puisqu'on va travailler avec eux, notamment sur des modules éducatifs, etc. Donc oui, ça c'est en programmation. Il y a 6 clubs, même 7 avec Le Havre en Ligue 2 qui l'ont signé. Donc le Paris Saint-Germain, l'OGC Nice, la Saint-Etienne, la JO Auxerre, Bordeaux et Montpellier.
Ouais.
À noter que Montpellier, c'est un cas vraiment typique, et à part, je veux dire, dans tout ce qui s'est passé avec les déclarations de Nicolin.
Oui, Pedretti, petite Tarlouse.
Oui, il y a eu ça, mais il y a eu son frère, son fils, oui. Qui fait des déclarations avant. Enfin, voilà, en tout cas, ce qui est intéressant avec Nicolin, c'est qu'il a su réfléchir, il a su se rendre compte que c'était. Parce qu'en fait, la problématique des propos à caractère homophobe ne sont pas forcément de l'homophobie, et que les gens qui les véhiculent ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire, parce qu'ils partent aussi du principe qu'il n'y a pas d'homo dans le foot. Donc ça ne blesse personne. Et qu'on est rentré dans du langage courant. Donc c'est tout ça qui est important de faire réalisée à des gens, donc Nicolas l'a compris. Là, on fait la prochaine opération le 5 novembre, on est à Montpellier pour un Montpellier-Saint-Etienne avec une opération là-bas, on a déjà fait une au mois d'août, on va en faire d'autres. Donc c'est important que des clubs et des gens comme ça s'impliquent.
Eh bien écoute Pascal, merci beaucoup de ton appel. On souhaite alors véritablement bonne chance en termes sportifs pour le Paris Foot Gay, et continue toi-même, tu le sais très bien, je te l'ai déjà dit de nombreuses fois, le combat, c'est vraiment un véritable combat, une lutte qu'on applaudit tous. Merci Pascal.
Merci à vous.
Alors, justement, nous allons lire la charte contre l'homophobie dans le sport. Sylvain,
oui.
Peux-tu nous prêter ta belle voix ?
Alors, je vais lire la charte contre l'homophobie dans le sport. Les fédérations, les associations nationales, les ligues professionnelles, les clubs, les associations, les établissements publics ou les autres organismes signataires de la charte présente s'engagent à 1. Prendre en compte et reconnaître de manière explicite l'homophobie en tant que discrimination contraire aux principes universels de protection des droits de l'homme. 2. Dénoncer et prendre les sanctions adéquates contre toute attitude homophobe, qu'elle se manifeste par un comportement discriminant, par des agressions verbales ou physiques, ou par des propos insultants en raison de l'orientation sexuelle réelle ou supposée. 3. Promouvoir la diversité dans le sport et assurer la diffusion de messages sur la tolérance, le respect et la dignité, en incluant systématiquement l'orientation sexuelle et la lutte contre l'homophobie. 4. Apporter aide et soutien aux pratiquants, entraîneurs ou autres personnes évoluant dans le sport qui pourraient être harcelées, insultées ou mises à l'écart en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. 5. Mettre en place des modules éducatifs sur la lutte contre toutes les discriminations, y compris l'homophobie, à destination de tous les acteurs du sport. Un éducateur ou un entraîneur se doit d'empêcher ou de faire empêcher toute forme de discrimination et doit par conséquent y être préparé. 6. Recenser les actes d'homophobie et en référer régulièrement au ministère chargé des sports, afin de constater l'évolution des comportements dans le sport et d'ajuster les actions à entreprendre.
Merci Sylvain. Alors, Donia, nous allons parler des sportives lesbiennes célèbres. Tu as quelques noms qui sont connus, hein, on ne va pas faire d'outing.
Donc on va commencer bien évidemment par la plus grande joueuse de tennis française, Amélie Mauresmo.
Oui.
Elle fait son coming out en 99 alors qu'elle n'a que 19 ans. Et ça va provoquer un véritable ouragan médiatique. Et même des propos lesbophobes proférés par Martina Hingis, qui refuse de jouer avec un demi-homme, dira-t-elle.
C'est sympathique. Hein.
Il y a ensuite Martina Navratilova.
Ah, la grande Martina.
Donc, qui fera son coming out en 91 lors de l'US Open.
Oui.
Donc, elle a eu des difficultés. Donc, des difficultés à conserver ses sponsors. Qu'il faut savoir que ça s'est passé
ce
avant.
C'est une grande
Amélie
peur
Mauresmo.
Des sportives et sportifs voilà. Gays, lesbiennes.
Et donc, pour marquer son combat, elle fait l'ouverture des Out Games en 2006.
Les Out Games,
c'est quoi ? C'est un événement sportif et culturel international qui cible la communauté gay.
On va dire que c'est des Jeux Olympiques gays et lesbiens. Il y en a deux, hein, c'est les Out Games et l'autre, ce sont les Gay Games.
Voilà.
Pour expliquer tout à nos auditrices et auditeurs.
Carole Péon.
Oui.
Donc, c'est la championne de France de triathlon en mai 2006. Donc, elle a dit clairement ses préférences pour les femmes.
Très bien.
Stéphanie Cano, joueuse de handball. C'est la capitaine de l'équipe de France des JO de Pékin et une des meilleures joueuses et attaquantes. Elle est aujourd'hui à la retraite.
Mais elle aime toujours les filles.
Et oui, oui.
Comme Sylvain.
Ça change pas. Mia Undvin, qui est norvégienne, et Camilla Andersen, qui est danoise, sont des joueuses de handball. Handball, on dit plutôt.
Oui.
Alors, Mia Undvin remporte le championnat d'Europe 98 et une médaille d'argent 2002 avec son équipe. Elle a une union avec la Danoise et adversaire sur le terrain Camilla Andersen, ce qui a provoqué une véritable polémique. Elles étaient accusées de s'échanger des secrets tactiques pendant la compétition.
Ce qui est arrivé aussi à deux sportifs de triathlon français qui sont effectivement aussi en couple et qui
étaient adversaires aussi.
Voilà, tout à fait.
Oh, c'est marrant. Alyssa Wykes, joueuse de football américain. Elle a participé à la première conférence athlétique gay et lesbienne des États-Unis en 2003. Ouais. C'est la pionnière dans le coming out lesbien. Elle œuvre aujourd'hui pour la Gay et Lesbian Athletic Foundation de Cambridge aux États-Unis. Cheryl Swoops, basketballeuse.
Oui.
Elle fait son coming out après avoir eu un enfant et vit avec Alisa Scott, un entraîneur.
Alors à signaler que ce n'est pas la seule basketteuse de la NBA américaine féminine qui a fait son coming out, il y en a eu plusieurs, ce qui a fait dire évidemment aux supporters de basket américains qu'il n'y avait que des filles homosexuelles dans la NBA féminine, jusqu'au moment où évidemment un des joueurs de la NBA masculine a fait son coming out, ça a été beaucoup moins drôle pour lui.
Oui. C'est plus accepté chez les filles.
Oui, complètement, oui.
Dans la liste que j'ai, par exemple, il n'y a que Martina Navratilova qui a eu vraiment des problèmes concrets avec les sponsors.
Oui.
Donc Rosie Jones, joueuse de golf, une des plus connues dans son domaine. Elle fait son coming out dans une lettre ouverte au New York Times en 2004. La société Olivia, qui organise des croisières lesbiennes, et donc son nouveau partenaire. il en faut pour tout le monde.
Mais exactement.
Donc Florence de Combeaucière, skieuse,
oui.
Championne d'Europe de slalom spécial. Elle fait partie de la famille des champions Augère et elle ouvre le premier chalet d'altitude gay de France.
Et tu as vu, tu as remarqué que nous n'avons pas rigolé ni souri alors que nous avions plein de mauvais jeux de mots sur les sports et sur des thèmes sportifs. Alors, en relation avec les femmes, ça aurait été terrible.
Mais il n'y a que toi pour voir ces jeux de mots, Daniel.
Et nous allons accueillir une femme au téléphone. C'est Christelle Foucault. Christelle Foucault, qui est la présidente de la Fédération sportive gay et lesbienne. Christelle, bonjour.
Bonjour, Daniel. Bonjour, tout le monde.
Comment vas-tu?
Bah écoutez, très bien, je suis contente d'entendre cette liste à la Prévert des joueuses qui ont fait leur coming out et qui sont célèbres de par le monde. Ça fait toujours plaisir à entendre. Oui, il y a des gens qui ont déclaré ouvertement leur homosexualité dans le sport.
Et cette liste est loin d'être exhaustive.
Oui, absolument.
Alors, Christelle, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que la Fédération sportive gay et lesbienne ? Pour tous nos auditeurs, et notamment les auditeurs et auditrices qui ne font pas partie de cette communauté, entre guillemets.
Alors, c'est un vieux mouvement maintenant, parce qu'en fait, la Fédération sportive gay-lesbienne, elle va avoir 25 ans, en fait, cette année. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors, elle a beaucoup évolué quand même au cours de cette période, parce qu'effectivement, le mouvement a changé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est une fédération qui regroupe une trentaine d'associations sportives sur le territoire national, donc principalement en région parisienne, mais également en région, des sports divers et variés. On a à peu près 35 sports différents. Ce sont des associations qui soit sont orientées vers la population homosexuelle, LGBT, soit qui sont des associations gay-friendly, c'est-à-dire plutôt favorable ou en tout cas plutôt accueillante à la communauté homosexuelle, mais qui mixe tout à fait leur population, et c'est de plus en plus le cas dans nos associations qui sont de plus en plus nombreuses là aussi. 25 ans, c'est parce que le mouvement effectivement est assez ancien et a un peu hérité du mouvement américain. J'ai entendu tout à l'heure qu'il a été mentionné la fédération des Gay Games et les Gay Games eux-mêmes, qui sont effectivement, comme tu l'as dit, une sorte de jeux olympiques homosexuels, mais c'est quand même un peu plus que ça. C'est quand même l'événement sportif amateur le plus important au monde. Ça regroupe effectivement tous les 4 ans à peu près 10 000 personnes, donc c'est énorme, c'est largement supérieur à ce que font les Jeux Olympiques traditionnels en ce moment. Oui. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire en termes d'orientation sexuelle. On n'a pas besoin d'être gay pour y participer, c'est pour ça que je m'insurge un peu contre le terme gay,
tout à fait.
Mais c'est aussi ouvert à tous en termes de niveau de pratique, et c'est là aussi où les gens n'osent pas forcément se lancer et s'inscrire dans l'épreuve, alors que ça va du sport de loisir au sport de compétition. On a des champions comme Teddy que vous allez avoir tout à l'heure, qui est un athlète de haut niveau au niveau de l'athlétisme et de sa performance au 100 mètres, mais on a aussi des gens qui font juste un footing le week-end ou qui ont envie de faire un tournoi de hand à l'autre bout du monde ou en Europe comme c'était le cas l'année dernière. Et c'est vraiment accessible à tous et c'est un moment d'échange. Donc ça, c'est un événement effectivement tous les 4 ans, mais le principe de la communauté, des associations sportives, lapsus, mais des associations sportives qui ont été créées dans le cadre de la communauté homosexuelle au départ, est plutôt de s'adresser à tous, de s'ouvrir au maximum et de favoriser ainsi, on va dire, la connaissance de l'autre, en l'occurrence de l'homosexuel qui est un peu discriminé et qui peut souffrir ça et là d'homophobie. Et bien là, c'est favoriser les rencontres, faire tomber un peu les clichés, parce que non, le rugbyman homosexuel n'est pas une tapette qui rechigne à aller au contre et au plaquage.
Au corps à corps.
Non, c'est pas ça, voilà. Donc c'est un peu le but de cette fédération qui vise à améliorer en fait la visibilité des homosexuels au travers de la pratique sportive, à favoriser les rencontres entre sports, entre fédérations traditionnelles, clubs traditionnels, et nos associations, au départ, encore une fois, LGBT, donc orientées vers la communauté, mais qui ont évolué au cours de ces 25 années pour tendre à plus de diversité et de mixité aussi.
Christelle, eh ben, tu as répondu à toutes les questions qu'on avait préparées en une seule réponse. Alors, on a encore quelques secondes. J'ai juste une question, parce qu'on en parlait avec Pascal Brett juste avant toi, et on a lu la charte contre l'homophobie qui a été signée par Ramayad, et depuis, plus de nouvelles. Est-ce que vous en avez des nouvelles? Est-ce que cette charte va être appliquée ou tout au moins proposée au club?
Moi, je suis un peu dans la même situation que Pascal. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'écho depuis le changement de ministère et la prise de fonction de Chantal Jouanneau.
Ouais.
Elle a fait des déclarations néanmoins au travers de diverses interviews où elle a été questionnée sur le sujet et elle a répondu en disant qu'elle poursuivrait en tout cas cette action. Dans les faits, on ne l'a pas rencontrée concrètement, donc il n'y a pas eu grand-chose de plus au jour d'aujourd'hui sur ce thème-là, mais néanmoins... En ce qui concerne la fédération, on a un premier contact avec des conseillers techniques de Madame la Ministre. On a des projets.
Ah bon, c'est déjà quand même au moins un petit quelque chose. C'est pas complètement enterré.
C'est pas complètement enterré. De toute manière, on va relancer aussi ce dossier-là. Bon, Pascal en a peut-être parlé, mais effectivement, il y a déjà certaines fédérations qui avaient signé cette charte avant le départ de Ramayad, qui sont sous la coupole en fait du CNOSF. Donc c'est le CNOSF qui invite les fédérations à signer cette charte. Effectivement, on va continuer de toute manière à mettre une forme de pression et surtout à ne pas s'en tenir à la signature d'un document parce qu'il faut qu'il y ait des engagements, il faut que dans les faits, ça prenne forme parce que c'est pas tout de signer une charte contre l'homophobie.
Il faut que ça se voit et que ça se concrétise sur le terrain.
Absolument.
Écoute Christelle, on te remercie beaucoup toute l'équipe et je suis sûr les auditrices et les auditeurs. On donnera l'adresse de la Fédération Sportive Gay Lesbienne, en fait c'est fsgl.org me semble-t-il.
Voilà.
On la remettra sur l'Étoile Rose et sur RCN, le site de la radio. On t'embrasse très fort et continue avec toute ton équipe ce beau combat. On t'embrasse.
Merci, moi aussi. Au revoir.
Et une pause musicale pour se détendre. On reste dans la thématique. C'est notre nouveau gremlin, Sylvain Slow, qui va chanter « Je suis une femme ».
Voilà, c'est un peu mon fantasme. Je me mets à nu.
Et en live et en direct.
Ce matin, au réveil, alerté par un parfum inhabituel, ça sent le lait, le miel, oh. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il s'agit de mon odeur naturelle, oh, c'est bon, c'est sensuel, oh. Alors je sors du lit dans un étrange déhanchement très élégant mais qui ne me ressemble pas. J'approche du miroir et me retrouve face à face avec le rêve secret qu'ont tous les garçons. Oui, je suis une femme, yes, avec l'art et la manière. Oui, je suis une femme. Une femme qui aime un petit peu les hommes, mais aussi un petit peu les femmes. Comme ça, tout le monde est content. Et tiens, l'idée me vient d'essayer... Tabac, boum, podium, étrange métamorphose que je contemple de la tête aux pieds tout rose en passant par le temple. Oh, et la courbe des reins, le poète avait raison, papa c'est divin. Après ça la peinture, après ça la sculpture, ça sert à quoi? Hein? Rien. Mais ce qui me fascine au-dessus de tout, ce sont ces deux petits seins qui semblent toujours dire bonjour. En haut c'est comme une glissade, au milieu c'est vous êtes ici, en bas ça fait comme un large sourire. Oui, je suis une femme,
avec l'art et la manière. Oui, je suis une femme. Zababoudoub, zababam, boudabzoum. Tiens, l'idée me vient d'essayer des sous-vêtements féminins. Le satin sur ma peau, oh. Je fouille dans mes placards, mes ex ont dû laisser traîner ça quelque part. Oh les jolies dentelles, oh les jolies jartelles, oh. Un pied contre le lavabo, je fais glisser des bas de bas en haut et le miroir n'en revient pas. Tiens, si j'allais dans le jardin bronzer un petit peu, mais d'abord il faut m'enduire d'huile sur la peau. Oui, car je suis une femme. Et vous n'êtes pas sans savoir que les femmes se mettent toujours un peu d'huile sur la peau avant d'aller au jardin. Oui, je suis une femme. Oh, ça y est, je suis bien enduite de partout. Oh, c'est si bon. Il reste encore un peu de rose et du matin. Le parfum des lilas embaume ma poitrine. Oh, comme il est bon de s'allonger nu sur la mousse et laisser de jolies pensées lentement durcir mes seins. Je caresse ma peau quand tout à coup quelqu'un qui ressemble à Eric m'y se tient derrière la guerrière. Oh,
chérie, j'ai cru voir le voisin à poil dans le jardin.
Mais je ne suis pas le voisin puisque je vous dis que... que je suis une femme. Vous pouvez tous chanter. Avec l'art et la manière. Ouais, pas mal. Je suis une femme. Stababoudou, badabadabam.
Bravo! Bon, Damien, Julien, on l'adopte, non?
On l'adopte,
oui.
On le garde.
On le garde.
Je suis votre remplaçant, j'arrive à la dernière minute et je claque 3 buts, après je pars.
Non, mais là, t'as gagné. Et haut la main, haut la main. Merci, Sylvain. Et on aura l'occasion de te réécouter dans les prochaines émissions et peut-être à la fin d'émission si on arrive à tenir le conducteur. Mon petit Julien, mon cher petit Julien, tu vas nous parler, toi, ça m'a troublé. Je me demande si je ne deviens pas hétérosexuel de la faute de Sylvain. Tu vas nous parler des sportifs, enfin de certains, hein, là aussi, quelques noms de sportifs gays célèbres.
Oui, alors quelques noms. D'abord Derek Peterson, qui est champion d'athlétisme. Et ce qui est rare dans son cas, c'est que lui a fait état de son homosexualité en activité, donc ça c'est très rare. Un autre nom aussi, Robert Dover, qui était spécialiste du dressage en équitation, qui a participé 5 fois aux Jeux Olympiques, de 1984 à 2000. Et il a d'ailleurs déclaré en 2000 que dans les 3 équipes qui étaient sur le podium, il y avait parmi les médaillés 3 gays, un Allemand et 2 Américains, et une lesbienne non déclarée. Il a ajouté « Je peux vous dire que les gays prennent part dans la majorité des sports ».
Eh oui.
Ce qui est vrai. Ensuite, John Ameche, qui est basketteur, donc qui a joué à la NBA.
Voilà, le nom ne me revenait pas, j'en avais parlé tout à l'heure. Oui.
Voilà, tout à fait. Donc lui, son homosexualité a été révélée par Man in the Middle, donc un livre qu'il a publié après sa retraite sportive, comme c'est le cas pour beaucoup de sportifs. Et donc lui était rugbyman après avoir joué au basket. Et il n'a pas fait état de son homosexualité auparavant parce qu'il constatait l'état important du machisme dans le sport de haut niveau notamment.
Eh oui.
Bien sûr. Ensuite, Justin Fashanu qui est footballeur. Donc il a joué lui dans les équipes anglaises aux États-Unis et aussi au Canada. Lui a révélé son homosexualité dans les tabloïds anglais en 1990. Et bon, d'ailleurs, il a été accusé d'avoir attouché un jeune de 17 ans en 1998. Et bon, c'est la fin ensuite.
Après une campagne absolument dégueulasse. Oui,
voilà, évidemment. La fin tragique que cette histoire a connue, hélas. Un autre, Marc Leduc.
Il s'est suicidé.
Voilà, effectivement, il s'est suicidé pour être précis. Un autre, Marc Leduc, qui est lui un boxeur. Alors lui confiait qu'il boxait de façon à ne pas révéler, ou plutôt se révéler son homosexualité, c'était une façon de la combattre, au sens psychologique cette fois. Il connaît hélas la rue à 15 ans puisque ses parents se séparent, donc une situation familiale difficile. Il connaît aussi la drogue, la prison, et c'est en prison qu'il va commencer à s'entraîner et devenir boxeur. Il va manquer de participer au JO de 1988 et hélas, à cause de problèmes de santé, il perdra ceux de 1992. Et lui, là encore, a révélé son homosexualité à sa retraite et il est mort récemment en juillet 2009 à 47 ans. George Louganis, lui qui est un plongeur californien d'origine grecque, lui aussi a obtenu de multiples médailles en la matière. Et il a révélé son homosexualité en 1994, ainsi que sa séropositivité,
oui.
Ce qui a provoqué des remous, bon, là on parle de piscine, parmi les plongeurs, on imagine lesquels. Et aujourd'hui, il est notamment acteur, auteur et surtout activiste pour la cause des gays et des séropositifs.
Oui.
Brian Orser aussi est patineur artistique. Alors ses talents à lui ont émergé très tôt, dès l'âge de ses 6 ans d'ailleurs. Il a obtenu de nombreux titres aux championnats mondiaux, aux Jeux Olympiques aussi. Et il a fait son coming out, lui, en 1998, suite à un procès intenté par son petit ami pour des questions de pension alimentaire. Un autre qui là peut-être est très connu, notamment actuellement, Matthew Mitcham.
Tout à fait, notre cher Matthew que... J'espère un jour avoir ce micro.
Alors, il est plongeur, il est australien et il est connu parce qu'il a été médaillé d'or au JO de Pékin, donc récemment. Il a révélé son homosexualité en mai 2008. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est le premier sportif ouvertement gay à accéder à un podium olympique. Et il a été élu en 2008 sportif de l'année en Australie quand même.
Exactement, et c'est un vrai porte-parole là aussi.
Un autre grand pour nous français, Olivier Rouillet, qui est maintenant commentateur sportif mais ancien footballeur.
Et qui est nancéen.
Et puis pour finir, Gareth Thomas, donc, oui. qui était rugbyman lui, joueur le plus capé de l'histoire du rugby gallois et qui a fait son coming out lui à 35 ans.
Et oui, et puis quelqu'un d'autre l'a fait aussi, et notamment dans les colonnes du journal. Alors, je suis en train de chercher sur mes fiches, je crois
que je le fais. Allez, moi aussi. Je suis homosexuel.
De West France, c'est un jeune athlète, Teddy Francisco Ted, tu m'entends ?
Ouais.
Oui, salut Ted. Tu es sociétaire du Racing Club Nantais.
Ouais.
Tu es membre de l'équipe de France aussi qui a participé au Gay Games. De Cologne en 2010. Et
je précise quand même que oui. Le portable avec lequel j'appelle a presque plus de batterie, donc il se pourrait que
ça coupe.
Quelques minutes, je rappelle avec mon portable.
D'accord. Et donc tu es double médaillé d'or au Gay Games de Cologne en 2010.
Ouais.
Alors Teddy, la question que j'aimerais te poser, c'est tu fais partie d'un club, j'allais dire qui ne fait pas partie de la Fédération Sportive Gay Lesbienne, hein, un vrai club d'athlétisme de haut niveau. Comment as-tu fait pour leur dire que tu voulais participer aux Gay Games ?
Bon, c'était assez naturel. J'avais une compétition. J'avais entendu parler d'une compétition à Cologne pour les Gay Games que j'ai découvert tout à fait par hasard. Et effectivement, bon, c'était pour faire le déplacement et pour participer à ces Gay Games. Je n'avais simplement pas les financements. Donc la FLGL m'a pas mal aidé là-dessus.
Oui.
Donc ils ont financé l'inscription et pour le voyage, bon, j'étais pas non plus très aidé parce que ça faisait quand même près de 300 euros le voyage.
Mmh.
Alors j'ai demandé à mon club, comme c'était une compétition d'athlétisme, je me suis dit qu'ils pourraient faire quelque chose pour moi et c'était le cas.
Eh oui, c'est vrai que le Racing Club Nantais effectivement a payé alors une partie de ton déplacement, ce qui est véritablement là aussi un beau geste. Et comment, j'allais dire, tes partenaires de cette équipe, de ce club, ont pris cette nouvelle ? Est-ce que tu as eu que des réactions positive?
Oui, ça, y a eu aucun retour négatif, absolument aucun.
Ben, j'ai l'impression, parce que j'ai lu beaucoup de choses de ta part, et j'allais dire que tu as fait un coming out sportif plutôt heureux, ce qui est plutôt rare.
Ouais, mais c'est-à-dire que je suis tombé vraiment sur un excellent groupe avec une excellente cohésion, où les blagues fusent à peu près toutes les secondes, ce qui est pas évident pour se concentrer à l'entraînement. Mais ça m'a paru assez naturel et j'en suis vraiment heureux. J'espère que ça pourrait se passer comme ça dans plusieurs clubs, quoi. Il faudrait essayer. Il faudrait que les gens soient moins stressés par cette aventure, quoi.
Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est parce que c'est un sport individuel et que si tu avais été footballeur, ça serait peut-être pas passé de cette façon-là?
Oh là là, méfiez-vous. je vais vous dire la différence entre le football et l'athlétisme, c'est que l'athlétisme, c'est un sport individuel pratiqué collectivement, alors que le football, c'est le contraire.
Ouais,
c'est un sport
très joli.
Collectif pratiqué individuellement. Donc, non, méfiez-vous, l'athlétisme, c'est un sport d'équipe, où tous les ans, on se retrouve pour les interclubs, là, deux journées d'interclubs pour pouvoir monter dans les classements. À chaque fois qu'il y a des déplacements en compétition, elles se font grouper, parce qu'on va tous ensemble aux mêmes compétitions quasiment. Donc, c'est un sport qui est vraiment très, très basé sur la cohésion et sur l'équipe, et sur le groupe. Maintenant, effectivement, j'ai l'impression que si dans le football, il y a... Allô ?
Oui, je t'entends.
Ouais. Non, c'est parce que le portable fait des bruits bizarres. Donc ouais, si dans le football il peut y avoir des difficultés sur la question de l'homophobie, c'est à mon avis c'est plus culturel qu'autre chose.
Oui.
C'est-à-dire que le football c'est beaucoup plus, disons que c'est un sport populaire qui est beaucoup plus ancré dans la société, je crois. Et ce qui ressort du football, c'est ce qui ressort de la société finalement, et c'est que on est dans une société hétéronormée, hétéropatriarcale, et du coup ça se ressent forcément dans le football, quoi.
Alors tu as dit aussi dans l'interview de West France que tu avais fait aussi ce coming out, alors la médiatique, pour tous les jeunes qui souffrent. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
En fait, c'est ça ma priorité, c'est que je me suis posé la question, est-ce qu'il faudrait que je le fasse ? Je veux dire, maintenant qu'ils m'ont financé une partie du voyage, ce serait bon de les remercier d'une certaine façon, et comment le faire et dans quel objectif ? Et l'objectif principal, en tout cas ce qui me touche le plus, c'est le nombre de suicides qu'on peut constater, en tout cas de tentatives de suicide et de suicides qu'on peut constater pour cause majoritaire, l'homosexualité. C'est édifiant, vous regardez les chiffres, ils sont édifiants, c'est une situation qui est aberrante, et je me pose la question de comment on fait pour les aider. Aux États-Unis, ils ont fait une campagne formidable qui s'appelle It Gets Better.
Oui, on en a parlé.
De la faire en France, mais au moins à mon petit niveau, dans mon petit club ou dans ma petite région, eh bien, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le fais, quoi. Je l'ai fait vraiment pour cette raison-là.
Et c'est bien comme ça que nous l'avons compris. Écoute, Teddy, on te remercie véritablement de nous avoir répondu. On te souhaite alors plein de bonnes choses sportives et évidemment de l'amour. Merci, Ted.
Merci à vous.
Et nous allons passer tout de suite à Mario Lanz, mexicain, chanteur mexicain. Quelqu'un m'a dit...
Que la vie ne valait pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On m'a dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins ils s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? El destino se burlará de mí, que me prometerá una vida tan feliz, que nada me dará y me quedaré sin ti, porque estando sin ti no podré resistir. Pero alguien me contó que me amas aún, me acaban de decir que me amas aún, será posible amor. Mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, lui dites pas que je me l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore? Serait-ce possible alors? Gran valor, que se marchitará pronto como una flor, que el tiempo se nos va y nos deja sin color, que la tristeza se convierte en el dolor. Pero alguien me contó que me amas aún, me acaban de decir que me amas.
Et oui, c'était Mario Lanz, qui est un jeune chanteur mexicain qui a fait ce medley de Quelqu'un m'a dit. Et nous avons Mario qui nous appelle en direct de Mexico au Mexique. Mario, salut.
Salut, bonjour à tous.
Comment vas-tu, mon cher Mario?
Moi, je vais super bien, merci.
Essaye de parler un peu plus fort. Alors, quelle heure est-il et quel temps fait-il à Mexico?
Il fait un petit peu froid. Il est 10h56.
Il est 10h56 et il fait froid, mais à côté de chez nous, je t'assure qu'il doit faire chaud. Alors, Mario, tu es chanteur. Qu'est-ce que tu chantais? Alors, quelle est ta vie?
Quelqu'un m'a dit, mais c'est une chanson tellement importante pour moi parce que et il fait 5 ans, une personne très importante pour moi est décédée.
Oui.
Et c'est lui qui m'avait fait connaître cette chanson et c'est pour cela que j'ai décidé de l'enregistrer et de faire aussi une version en espagnol pour pouvoir partager avec aussi les personnes qui parlent en espagnol sur, et pour que puissent bien comprendre ces jolies paroles.
Eh ben écoute, c'est un témoignage qui me touche, on n'en avait pas parlé pendant la préparation de l'émission. En tout cas, tu le sais très bien, je l'ai entendu sur internet et je t'ai contacté immédiatement et tu m'as répondu. J'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup les versions espagnoles et françaises de cette chanson de Carla Bruni. Mario, tu vis au Mexique, alors quelle est la situation des gays et des lesbiennes au Mexique?
Et la situation, c'est vraiment très diverse, parce que, par exemple, dans ma ville, la ville de Mexico, c'est une ville très ouverte à l'acceptation, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais accepter des conditions sexuelles différentes.
Mmh.
Et dans la province, ici, de Mexique, c'est, par contre, dans beaucoup d'endroits, est très discriminé, et ça fait un petit peu mal, moi, je pense.
Oui, mais alors, donc, d'après ce que je sais, en fait, il n'y a que la ville de Mexico, la capitale, qui a adopté le mariage homosexuel et l'homoparentalité, alors que le reste du Mexique n'a toujours pas voté ces lois-là.
Oui, ici, selon moi, c'est le premier pays latino-américain qui fait ça. Et oui, et dans tous les pays, ce n'est pas possible, mais c'est juste dans ma ville qui a accepté et adopté, parce que maintenant, ce n'est pas comme le passe en France. C'est juste un mariage, on a les mêmes droits, un héritage, par exemple, et aussi l'assurance sociale. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment une avance très, très, très grande et remarquable.
Oui,
et la communauté.
Et on t'envie, parce que même s'il n'y a qu'une ville, la capitale au Mexique, pour nous en France, c'est Niette partout. Donc on t'envie, c'est un début, on espère très vite, et notamment en 2012, pendant les présidentielles en France, nous allons nous battre aussi pour avoir cette égalité des droits. Mon cher Mario, est-ce que tu as un message à donner à tous les jeunes homos du monde, ceux qui nous écoutent au Mexique et ici?
Oui, et certainement, moi, je voudrais vous dire, à vous tous, que on est toujours à la recherche du bonheur, mais on ne sait pas quand même qu'on a vraiment tout le bonheur dans la paume de la main. Et c'est juste qu'on a vraiment envie de découvrir et de savoir que le bonheur nous arrive juste d'un petit morceau. Et ce n'est pas éternel, mais on doit bien profiter ces petits moments et on doit bien les chercher et travailler pour les maintenir à côté de nous.
Eh ben écoute Mario, je t'assure que je vois des yeux qui brillent dans mon équipe autour de moi. On te laisse parce que c'est bientôt la fin de l'émission, on t'embrasse très très fort et tu embrasses tout le Mexique de notre part. Merci beaucoup Mario, on t'embrasse.
Merci à vous tous, gros bisous pour tous.
Gros bisous Mario. Et puis, ben, nous allons terminer cette émission avec la guitare de Sylvain.
Et la voix de Donia.
Voilà. N'oubliez pas, chers amis, hétéro comme homo. N'oubliez pas, hétéro comme homo. Aimez-vous les uns les autres. Ne soyez pas trop sages et surtout sortez couverts. On se retrouve le mardi 15 février pour une spéciale fille. Merci à toutes et à tous.
Homosexuel, pourquoi pas. Intermittent du spectacle, jamais. Si un jour, mon fils me dit « Papa, j'aime les hommes, je m'en fous. Si un jour il me dit je suis intermittent du spectacle, jamais. Donia, j'aimerais que tu chantes, s'il te plaît.
Je chante pas.
Ou ben parle alors, vas-y. Allez Donia, vas-y. Raconte-moi ta journée.
Oula, ma journée. Il me prend de court là.
Julien.
Il me prend de court.
Julien,
ah bah une journée de lesbienne normale quoi.
Ah parce qu'il y a des journées types de lesbiennes.
Oui bien sûr.
C'est quoi? Attends, j'adore.
De folie.
Alors tu t'es réveillée?
Oui, et j'ai eu mon amie lesbienne au téléphone qui m'a raconté ses histoires de couple de lesbiennes.
Ah, oui. C'est pas ton officiel alors?
Non, non, non.
C'est l'officieuse?
Non, du tout. C'est une amie à moi.
Oui, Laurie,
amie
ne
au
pas.
Sens copine.
Ah oui, ah, voilà. Je viens de faire
et
une connerie.
Qui est juste à ma droite d'ailleurs.
C'est la boulette.
Qui est juste à ma droite d'ailleurs.
Je suis spécialiste des ruptures.
Mais, ça serait pas mal un petit refrain de Je suis une femme là.
Ouais, bah allez. Bah.
J'ai bien aimé tout à l'heure.
Je suis une femme. Avec l'art et la manière. Oui, je suis une femme. Mais une femme qui n'a plus de voix. Voilà.